Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Quel est le principal enjeu de cette COP 15 à Abidjan ?
Notre pays accueille donc le monde pendant 15 jours pour parler de tout ce qui est désertification, réhabilitation des terres et l'insécurité alimentaire. Et nous espérons aussi, à travers donc le lancement de l'initiative d'Abidjan, qu'on a appelé communément Abidjan Legacy Programme, attirer donc des investissements étrangers dans le domaine de la lutte contre la dégradation des sols.
Alors, l'un des principaux enjeux de cette COP 15, c'est la lutte contre la désertification. Et je crois que l'état des lieux est assez alarmant aujourd'hui.
Ah ben oui, bien sûr. Alarmant, oui. C'est toute l'Afrique. Hein. Vous savez très bien que l'Afrique, dont les populations sont encore beaucoup rurales, est particulièrement exposée donc à ce phénomène. Il y a donc 319 millions d'hectares en Afrique qui sont menacés de désertification.
Ce qui pourrait représenter la moitié des terres exploitables, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est vrai, la désertification, c'est véritablement la dégradation progressive donc des sols.
Et justement, pourquoi ces terres sont-elles de moins en moins fertiles ?
Écoutez, ces terres sont de moins en moins fertiles par la faute des activités humaines et des changements climatiques. Les terres arides occupent encore près de 2/3 donc du continent africain et les 3/4 donc des terres sèches.
Ce qui veut dire que les terres ont de moins en moins de nutriments pour nourrir les hommes et les animaux d'élevage.
Ah oui, bien sûr.
On dit souvent que c'est l'agriculture moderne, basée sur les monocultures intensives dopées aux engrais, qui sont à l'origine de cette dégradation des sols. Est-ce que vous confirmez ?
Oui, vous savez, il y a une forte utilisation de l'engrais synthétique. L'engrais synthétique, effectivement, a permis donc de détruire la qualité du sol. Et la tendance, c'est de passer vraiment à l'engrais vert, c'est-à-dire tout ce qui est engrais agricole.
Les engrais verts, ce sont des engrais naturels, c'est ça ?
Naturels, c'est ça. Et l'utilisation abusive aussi des sols permet donc de faire perdre le niveau de fertilité donc de ces sols-là.
Et en Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que vous avez une estimation du pourcentage des terres qui sont dégradées ?
On tourne autour de 40%. On a perdu donc le couvert, la Côte d'Ivoire a perdu donc son couvert forestier. Il est important donc de reconstituer donc cette forêt-là.
Est-ce que cela a été le prix à payer pour que la Côte d'Ivoire devienne le premier producteur mondial de cacao ?
En ce qui concerne donc le cacao ivoirien, il a été récemment démontré que le développement de l'économie cacaoïrière a entraîné effectivement une déforestation. Bon, ça, on peut le dire à peu près 60% des superficies forestières, donc respectivement donc à l'est du pays, au centre-ouest et au sud-ouest et à l'ouest. Les effets se sont fait ressentir donc entre 1995 et 2019.
C'est-à-dire que 60% du couvert forestier a été détruit entre 1995 et aujourd'hui, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Les résolutions donc, qui vont sortir de cette COP vont faire l'objet donc, d'un document qu'on a appelé donc, le Abidjan Legacy Programme, qui va adresser donc, toutes ces questions.
Abidjan Legacy Programme, c'est l'initiative d'Abidjan.
L'initiative d'Abidjan, bien sûr.
Et c'est un discours que va prononcer le président Ouattara. Alors, pour restaurer ces terres dégradées, quels sont les moyens, justement ?
Pour restaurer cette terre ivoirienne, il faut donc mettre en place donc un vaste programme de reconstitution du couvert forestier. Et donc le but d'une telle initiative est de stimuler donc la durabilité environnementale. Donc il y a un vaste programme de restauration des forêts et des terres donc, qui va être mis en place jusqu'en 2030.
Mais est-ce que les producteurs de cacao ne vont pas s'opposer à ce plan de reforestation ?
Non, mais ce plan de déforestation est accompagné de nouvelles techniques pour faire l'agriculture. Parce que aujourd'hui, on parlera plutôt d'agriculture intensive au lieu de faire l'agriculture extensive. Donc, les agriculteurs auront donc toutes les techniques appropriées pour faire de l'agriculture donc intensive et durable. Et au fur et à mesure qu'on reconstitue donc le couvert forestier, il est évident que les terres vont commencer à retrouver donc leur niveau de fertilité. Et si les terres retrouvent leur niveau de fertilité, c'est sûr que sur une petite surface, une petite superficie, vous pouvez donc produire plus qu'une grande superficie qui se passe actuellement parce que les terres ont perdu donc leur fertilité. Les techniques, il y a plusieurs techniques. Les techniques de brûlage, par exemple. Vous savez, nos agriculteurs, ils font donc du brûlage. Et le brûlage détruit aussi les sols. Donc, il y a d'autres techniques qui vont permettre donc de faire des composts. Ils vont donc enrichir donc les sols. Donc, toutes ces techniques vont être contenues dans ce qu'on appelle donc l'initiative d'Abidjan et qui vont être mises en application jusqu'en 2030.
Mais tout ça, ça coûte cher. Est-ce que vous avez chiffré le coût ?
Tout ça a été évalué à peu près à 1,5 milliard de dollars.
Pour la seule Côte d'Ivoire ?
Ah oui, bien sûr.
1,5 milliard de dollars d'ici 2030.
D'ici 2030, voilà.
Alors ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais selon la FAO, la région du monde qui est la plus touchée par la désertification et la dégradation des terres, c'est l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un programme spécifique pour cette région du monde afin d'arrêter la dégradation des terres ?
Vous vous rappelez bien qu'il y a eu la Grande Muraille Verte, qui est une initiative phare donc, de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et la désertification en Afrique, et qui concerne effectivement le Sahara et le Sahel. Bon, c'est vrai que ça a été lancé donc, officiellement en janvier 2007, et aujourd'hui, ce projet donc, présenté en 2002 rencontre donc, des critiques sur sa stratégie et son utilité. Bon, c'est vrai, depuis 20 ans, on peut dire que ça n'a pas vraiment évolué véritablement, mais il y a quelque chose à faire.
Mais de fait, cette Grande Muraille Verte lancée par Abdoulaye Wade il y a 20 ans, de Dakar à Djibouti, c'était un beau projet, même si ça n'a pas marché, ça reste d'actualité, non ?
Oui, ça reste d'actualité, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut, permettre à tout le monde donc, d'être attentif à ce projet, parce que c'est un projet qui est très important, puisqu'elle traverse plus de 11 pays sur 7500 km qui passent donc entre le Sénégal et Djibouti, et donc l'Afrique est menacée. Et si des dispositions ne sont pas prises, et des résolutions ne sont pas prises par rapport à cette Grande Muraille Verte, il est évident qu'il va avoir l'avancée de la sécheresse, l'avancée des déserts.
Alors, comme la Côte d'Ivoire accueille cette semaine la COP 15, c'est une personnalité ivoirienne qui présidera la COP ces deux prochaines années. Qui sera cette personnalité ?
Je crois qu'il faut attendre le 11, puisque c'est le 11 qui va avoir l'élection. Donc, c'est à partir du 11 qu'on saura qui va présider donc, cette COP pendant les 2 ans à venir.
Mais ce sera bien un Ivoirien.
Ah ben, bien sûr. L'Inde va passer le flambeau à la Côte d'Ivoire. Et vous savez très bien que quand on passe le flambeau donc, au pays, c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui sera donc le président de la COP. Et il délègue donc ce pouvoir de présidence de la COP à qui il veut, pour assurer donc la présidence sur les 2 ans.
Alors parmi les favoris, on cite l'ancien ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwaï. Est-ce que vous confirmez ?
Je n'ai aucune information là-dessus.
Alain Richard Donwaï a dirigé le ministère des Eaux et Forêts pendant 5 ans. Or, ce ministère, comme l'a révélé Jeune Afrique, est impliqué dans le scandale d'un trafic de bois présumé. Et M. Donwaï n'a pas été reconduit au gouvernement lors du dernier remaniement. Est-ce que malgré tous ces handicaps, il pourrait être nommé à la présidence de la COP 15 ?
Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Et c'est seul le président de la République donc, qui sait à qui confier la présidence donc, de la COP.
Mais comme depuis plusieurs mois, le ministère des Eaux et Forêts fait l'objet d'un audit pour ce trafic de bois présumé, est-ce que cela ne complique pas la candidature d'Onwaï tout de même ?
Bon, certainement que c'est des rumeurs que vous avez entendues, mais laissez les choses se faire jusqu'au 11 mai et on verra bien.
Êtes-vous candidat vous-même, monsieur le ministre ?
Non, je ne suis pas candidat. À ce niveau, c'est le chef de l'État qui coopte les candidatures.
Oui, la décision revient au président Ouattara, en fait.
Voilà, la décision revient au président Darbe.
Jean-Luc Assy, je vous remercie.